VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonsoir, bienvenue. En Côte d'Ivoire, trois cadres du parti de l'ex-président Laurent Gbagbo ont été interpellés aujourd'hui après leur participation la semaine dernière à une réunion contestée ayant désigné l'ex-chef de l'État ivoirien comme président de cette formation en crise. Hubert Oulahi et Sébastien Dano Djedje, des proches de Laurent Gbagbo, ont été arrêtés à leur domicile tôt ce matin par des policiers, a affirmé à l'AFP. Leur défenseur Maître Toussaint Dako, deux camps s'affrontent au sein du FPI et ils sont opposés à plusieurs reprises devant la justice ivoirienne. Celle-ci a notamment prononcé fin 2014 l'irrécevabilité de la candidature de M. Gbagbo à la tête du parti. Ses partisans avaient fait appel. La décision est attendue le 5 juin. Au Mali, une quinzaine de militaires et de nombreux assaillants tués dans les affrontements entre les rebelles de la coordination des mouvements de la Zawad et les forces gouvernementales dans le nord du pays, malgré les appels au calme des populations et de la communauté internationale. La recrudescence des combats date de l'attaque des éléments de la plateforme pro-gouvernementale Gatia contre les rebelles du MNLA à Menaka, près de la frontière du Niger. Des précisions avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Tout a commencé le lundi 27 avril dernier à Menaka, quand les éléments de la plateforme ont chassé les hommes du MLLA qui contrôlaient cette ville depuis mai 2014. Cela suite aux événements de Kidal. Malgré la prise de la ville par les éléments de la plateforme, les combats se poursuivaient. Baja Ag Amatou, député de Menaka.
Les opérations sont là-bas. Il est vrai qu'il y a des petits accrochages, des affrontements. Et ce qui est sûr, c'est que les éléments de la plateforme sont à Menaka. Les drapeaux du Mali sont déjà montés partout. Menaka est sous la protection des éléments de la plateforme.
Au cours de leur meeting au stade Omnisport Modibo Keita de Bamako, les leaders de la plateforme de la société civile malienne ont lancé des appels aux membres de la CMA. Mahmoud Diko, président du Haut Conseil islamique du Mali.
Nos frères du MNLA, nos frères du Haut Conseil de la Zawad, nos frères du mouvement arabe de la Zawad. Assez. Le peuple malien a assez souffert. Il y a eu assez de misère. Je crois qu'il faut avoir pitié de nos enfants qui sont dans cette situation de misère pour enfin revenir à la raison.
Les travailleurs du Mali ont placé la fête du 1er mai sous le signe de la paix et de la réconciliation. C'est pourquoi l'UNTM propose la tenue très rapide d'une grande concertation nationale. Yacouba Katilé, secrétaire général de l'Union nationale des travailleurs du Mali.
Nous nous battons pour la paix, nous battons pour la sécurité. Au moment venu, ce qui a lieu de dire par rapport à des correctifs à apporter sur certains aspects, nous allons faire venir vraiment notre apport pour aller au travail, il faut qu'il y ait la paix. Et pour demander quelque chose à l'employeur, il faut qu'il y ait la paix. Et s'il n'y a pas de paix, on oublie tout ça. Donc nous voulons qu'il y ait la paix et cette paix conditionnée vraiment à la cessation des hostilités.
L'ancien premier ministre du Mali pense que c'est un groupe d'individus armés qui est manipulé par certaines puissances internationales. D'où son appel à l'union sacrée autour du Mali. Mohamed Hamed Agamani.
C'est l'union sacrée, je dis bien l'union sacrée, des patriotes maliens, des vrais, pas des gens qui ont leurs pieds ici, ils ont leurs pieds ailleurs. Pas des gens qui sont ici et qui bombardent le Mali demain. Ça suffit. Il n'y a pas de poèmes, il n'y a pas de bambara, il n'y a pas de peul, il y a le citoyen malien.
En tout cas, malgré les appels des autorités maliennes, ceux de la communauté internationale, les localités maliennes continuent d'être attaquées par des rebelles. La dernière est Direi, où ils ont enlevé un agent de la police et emporté deux pick-up. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Togo, le président Faure Gnassingbé a été officiellement déclaré vainqueur de l'élection présidentielle. Le point tout de suite avec notre correspondante à Lomé, Kai Lawson.
Ce lundi 4 mai, le président élu Faure Gnassingbé prête serment devant la Cour constitutionnelle pour le tome 3 de son odyssée présidentielle. La Cour a confirmé hier sa victoire à 58,67% des suffrages exprimés devant son challenger Jean-Pierre Fabre, qui se voit crédité de 35,19% des voix. L'audience de la Cour constitutionnelle tenue ce 3 mai ne nous engage aucunement, a déclaré Pascal Adoko, porte-parole de Jean-Pierre Fabre. Faure Gnassingbé rempile ainsi pour un troisième mandat, alors que Jean-Pierre Fabre dit avoir gagné l'élection avec 52,20% des voix, compilé dans 26 commissions électorales locales indépendantes CELI sur les 42 que compte le Togo. C'est pour la première fois sous la présidence de Faure Gnassingbé que les résultats d'une élection présidentielle n'ont pas suscité de contestation dans les rues, dans les heures qui ont suivi sa proclamation. Kai Lawson, Lomé, VOA Afrique.
législatives au Bénin, le FCB du président Yahi Boni arrive largement en tête avec 33 députés, mais n'obtient pas la majorité absolue au Parlement, qui compte 83 sièges. C'est ce qui ressort de la proclamation des résultats des législatives du mois dernier par la Cour constitutionnelle dimanche. Les deux partis d'opposition les mieux placés, c'est l'UN avec 13 sièges et le PRD avec 10.
VOA Afrique en direct de Washington.
Le cap sur la République centrafricaine, ouverture aujourd'hui à Bangui du Forum de réconciliation nationale. On fait le point tout de suite avec notre correspondant sur place, Thierry Mbomba, au micro de Timothée Donangmaï.
Tout est sympa pour ce forum que les Centrafricains attendaient depuis longtemps. Dialogue qui mènera à la réconciliation. Toutefois, les Centrafricains regrettent l'absence des deux anciens présidents, François Bozizé et Michel Djotodia, qui, selon eux, devraient vraiment dire aux Centrafricains comment on en est arrivé à ce niveau.
Quel est le sentiment du côté des milices anti-Balaka et des ex-Séléka?
Avant ce dialogue, nous avons évolué de revendication en revendication. La Séléka qui exigeait plus de place qu'on ne lui a donné, tandis que les anti-Balaka exigeaient quant à eux la libération de leurs pères qui sont détenus en ce moment à la maison d'arrêt centrale de Ngaragba. Mais toutefois, on va quand même aller à ce dialogue.
Le correspondant de VOA Afrique à Bangui, Thierry Mboma. Au Burundi, les manifestations contre un troisième mandat pour le président Pierre Nkurunziza ont repris aujourd'hui à Bujumbura après une trêve de l'opposition pendant le week-end pour donner au chef de l'État le temps de changer d'avis. Un appel resté sans réponse selon l'AFP. Kenya, consultation aujourd'hui entre les hauts responsables du pays, dont le président Uhuru Kenyatta et le secrétaire d'État américain John Kerry en visite dans le pays. Au programme, les questions de sécurité et le développement économique. M. Kerry restera au Kenya jusqu'à demain. Sa prochaine étape africaine, Djibouti. A noter que le président Barack Obama compte visiter cette année le Kenya, pays natal de son père.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Actualité aux États-Unis, l'éveil du couvre-feu à Baltimore dans l'état du Maryland par le maire Stephanie Rawlings-Blake. Maintenant que le calme y est revenu, des précisions avec Timothée Donangmaï.
Madame Rawlings-Blake a expliqué qu'elle ne tenait pas à ce que la mesure reste en place plus longtemps que nécessaire. Ma principale priorité dans l'imposition du couvre-feu était de préserver la paix, la sécurité, la santé et le bien-être des habitants de Baltimore, a-t-elle déclaré. Peu après l'annonce de Mme Rawlings-Blake hier, le gouverneur du Maryland, Larry Hogan, a dit de son côté que certains des 4000 membres de la garde nationale et policiers déployés à Baltimore ont amorcé leur retrait. Toutefois, l'état d'urgence restera en place jusqu'au retrait total de ses forces, a-t-il précisé.
Et toujours en Israël, le premier ministre Benjamin Netanyahou reçoit aujourd'hui les représentants des Israéliens d'origine éthiopienne après une violente manifestation des Falachas, les juifs originaires d'Éthiopie, brutalement réprimés dimanche soir à Tel Aviv par la police. Monsieur Netanyahou veut apaiser les esprits au sein de la communauté Falacha qui se sent ostracisée et réclame d'être traité sur un pied d'égalité. Toujours en Israël, deux casques bleus ont été blessés ce lundi par des obus mortiers tiré depuis la Syrie en guerre vers la partie du plateau du Golan occupé par Israël. Le Golan occupé est régulièrement frappé par des projectiles venus de Syrie où les combats font rage entre l'armée, les rebelles et les djihadistes. Il n'apparaît pas toujours clairement si les tirs sont intentionnels ou non. 6 blessés dans une explosion déclenchée par un kamikaze à Damas. Des rebelles circulant en moto ont attaqué aujourd'hui un quartier de Damas et l'un d'eux a détonné sa ceinture d'explosifs faisant 6 blessés. C'est ce qu'a indiqué à l'AFP une source de sécurité, une source hospitalière citée donc par l'AFP. Le front al-Nostra, branche syrienne d'Al-Qaïda, a revendiqué cette attaque sur Twitter en affirmant « Avec l'aide de Dieu, 3 de nos lions ont pu s'infiltrer dans le bâtiment des services logistiques de l'armée. » Et puis enfin, en Afghanistan, attentat suicide taliban à Kaboul, malgré une amorce de dialogue du Qatar. Un attentat suicide a fait donc un mort et 15 blessés ce lundi à Kaboul, alors que les insurgés islamistes et une délégation afghane ont amorcé ce dialogue au Qatar dans l'espoir de mettre un terme à plus d'une décennie de conflits meurtriers. Jean-Roger Billon à ce microphone. On se retrouve dans une heure.
Soyez au cœur de l'info.